grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Coup de projecteur ce matin sur la sophrologie, que l'on confond souvent avec la méditation. Fondée en 1960 par un neuropsychiatre, inspirée de l'hypnose et de certaines disciplines orientales, la sophrologie est une pratique psychocorporelle qui s'appuie notamment sur la détente physique, les exercices de respiration et la visualisation d'images positives. La sophrologie se divise en deux grands courants, d'un côté une vision plus philosophique, existentielle, et de l'autre une démarche à visée plus thérapeutique. Nous verrons ce qu'est et ce que n'est pas la sophrologie, quels sont ses grands principes, quel est son fonctionnement, existe-t-il une validation scientifique, quels sont ses domaines d'application dans le domaine médical et paramédical, pourquoi la sophrologie est-elle utilisée dans certains services hospitaliers, existe-t-il des validations scientifiques, comment trouver un bon sophrologue solidement formé et surtout éviter les charlatans qui s'improvisent sophrologues. Pour nous éclairer ce matin, Richard Esposito, professeur de philosophie et sophrologue, le sophrologue Guillaume Delpierre, Thomas Cédurand, docteur en biologie végétale et vulgarisateur scientifique, et avec nous également Aline Perraudin de Santé Magazine. Nous attendons toutes vos questions sur la sophrologie au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour.
Bienvenue, le médecin de Grand Bien Vous Fasse en duplex de Toulouse ce matin. On vous retrouve tous les lundis pour votre chronique Alors Voilà qui raconte une médecine à visage humain. Le programme tout à l'heure.
Aujourd'hui, je vais vous porter où le visage d'une patiente.
À tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour.
Allez. Ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, très impliqué. La FRM, c'est notre partenaire tous les mois. Et vous avez rencontré un chercheur à l'enthousiasme communicatif, le neurologue Lionel Nakache.
Exactement, le professeur Nakache est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Il est spécialiste en neurosciences cognitives. Et son équipe de recherche a été soutenue à deux reprises par la Fondation pour la Recherche Médicale en 2010 et 2015.
Et on verra ça tout à l'heure, Thierry Lhermitte. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Vous êtes infirmière ?
Je suis sophrologue.
Sophrologue, excusez-moi, je...
J'accompagne l'être humain dans sa profondeur. Je le calme, je le valorise... J'applique une technique psychocorporelle qui tente de réconcilier l'âme et le corps. Je leur fais prendre conscience de leur beauté. J'aide mes patients à entrer en contact avec leur moi positif, avec leurs ressources profondes.
Valérie Bonneton et Kad Merad dans le film Des gens qui s'embrassent. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est la sophrologie, Richard Esposito, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie et sophrologue et vous publiez au PUF un Que sais-je consacré à la sophrologie. Bonjour Guillaume Delpierre.
Bonjour.
Vous êtes sophrologue diplômé par la Fédération française de sophrologie et vous avez proposé un projet au CHU de Rouen pour apaiser les douleurs des patients. Alors qu'est-ce que la sophrologie, Richard Esposito ?
Alors là,
on confond souvent la sophrologie avec la méditation.
Oui. Alors bon, je vais expliquer au fur et à mesure justement les différences, mais les ressemblances aussi parce qu'elles sont aussi importantes. La sophrologie est avant tout une méthode corporelle, et donc cette méthode corporelle, cela veut dire qu'elle prend en compte le corps d'abord, hein, n'est pas qu'une méthode corporelle, c'est aussi une méthode psychocorporelle. Donc je vais procéder en deux temps. Alors méthode corporelle parce que nous proposons donc en sophrologie ce que nous appelons des techniques de relaxation. Relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, relaxation statique, bon, c'est en position assise, donc ce sont des temps, si vous voulez, où la personne, bien entendu, statique, n'est pas en mouvement. Et ces différentes techniques que nous proposons sont aussi associées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à des techniques de respiration, et je préférerais le mot, plutôt que visualisation, évocation, hein, c'est-à-dire évocation positive, dans le sens où la visualisation, pour moi, restreint, sont plus autour des visualisations, des évocations autour du toucher, autour de l'audition, autour des différents sens. Et donc, ces techniques ont pour vocation, et c'est là qu'on peut dire que la sophrologie est aussi une technique, une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire de favoriser une meilleure unité entre, d'un côté, ce qui relève des émotions des pensées et des comportements.
Hein. C'est un neuropsychiatre espagnol à l'hôpital provincial de Madrid, Alfonso Caicedo, qui forge le néologisme de sophrologie.
C'est ça.
Quelle est l'étymologie du mot sophrologie?
Alors, le mot sophron existe déjà avant Caicedo, puisque dans la Grèce antique, pour les philosophes, le sophron, c'est l'homme modéré. Hein, c'est-à-dire que le terme sophrosuné aussi, renvoyant vers la modération ou l'aptitude précisément à pouvoir se contrôler, pourrait-on dire. Mais l'origine du mot sophrologie, c'est-à-dire que le mot sophropsyché existe déjà avant Caicedo. Et c'est lui, effectivement, qui va créer le mot sophrologie. Alors, il y a plusieurs étymologies, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que logos, c'est l'étude, hein, le discours rationnel en grec. D'un autre côté, donc, le terme sos signifiant le mot saint, pourrait-on dire, et le terme
S-A-I-N.
S-A-I-N, effectivement, et le terme fren voulant dire, bon, on va dire l'esprit, hein, c'est-à-dire c'est l'étude de l'esprit saint. Alors, effectivement, alors il faut aussi se méfier, parce que tout à l'heure, il dit, la sophrologie est constituée de méthodes de relaxation, les personnes peuvent limiter la sophrologie à de la relaxation, alors qu'au cœur de la sophrologie, il est question quand même d'une démarche existentielle, et pas simplement corporelle. Ça, c'est la première chose. Et pour revenir sur cette question, effectivement, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que Caicedo estime que les techniques peuvent favoriser chez le sujet un meilleur équilibre.
Alors, Richard Esposito, oui. Vous l'écrivez, la sophrologie est un entraînement, une pédagogie de l'existence susceptible de produire des effets thérapeutiques. Mmh. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Je ressens une émotion négative qui pourra produire une pensée négative et qui pourra me conduire à adopter un comportement négatif. Mmh. Si je pratique la sophrologie, comment puis-je agir sur ce processus? Donnez-nous un exemple concret et précis.
Alors, moi, je vais prendre un exemple simple parce que je suis enseignant à la base. Donc, et j'ai vite remarqué, ayant une double formation à l'origine, c'est-à-dire de prof de philo et de sophrologue, que ce qui constitue une des difficultés précisément des élèves, c'est la perte de confiance en soi. Donc ça, c'est un gros problème et qui parfois bloque justement
négative.
Les élèves. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on ne va pas, par exemple, le psychologue, lui, il va entendre, il fait un excellent travail, hein, c'est-à-dire ce que l'élève lui transmettra de négatif par rapport à son environnement, sa relation aux parents, sa relation aux enseignants, etc., qui pourrait constituer un facteur d'inhibition. Nous, on va entendre tout cela, mais ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qui fonctionne. En partant du principe qu'en mettant l'accent sur ce qui fonctionne, on pourra éventuellement, c'est l'idée de la sophrologie, hein, bien entendu, le renforcer. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux ressources et aux capacités de la personne. Alors, le psychologue, lui, va faire un travail de son côté. Nous, on va faire un travail, si vous voulez, d'une autre, mais qui va permettre, c'est ce que nous espérons, bien entendu, hein, c'est-à-dire nous avançons prudemment, de donner à la personne la possibilité d'être conscient de ressources et de capacités qui n'étaient pas toujours effectivement conscientisées.
Pour y voir plus clair, qu'est-ce que la sophrologie n'est pas ?
Alors, je dirais que la sophrologie, pour moi, n'est pas une boîte à outils. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sort pas comme ça d'une boîte à outils, comme une technique, et qu'on plaquerait en quelque sorte sur la personne. C'est-à-dire qu'on doit entendre la demande de la personne et faire en sorte que l'adaptation technique se fera en fonction de ce qu'elle va nous dire et en fonction des prises de conscience éventuelles qu'elle va effectuer. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, la sophrologie n'est pas de la simple relaxation, c'est pas simplement de la détente. Il y a un projet existentiel, pourrait-on dire, dans la sophrologie d'ouverture ou d'accès à soi. Donc, d'où ce lien aussi avec, on en parlera peut-être, une partie de la philosophie, ou en tout cas un courant philosophique. Et puis, d'un autre côté, la sophrologie n'est surtout pas, alors là j'insiste là-dessus, parce que parfois les personnes se font instrumentaliser, une sorte de retour vers la vie antérieure ou ce genre de choses.
Ou la vie intra-utérine.
Voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire une mise en perspective de choses qui, pour moi, sont très problématiques et qui pourraient intéresser certaines personnes, mais qui ne sont pas évoquées dans le cadre de la sophrologie.
Guillaume Dolpierre, vous êtes sophrologue, on a parfois effectivement avoir du mal à savoir, à sentir ce qu'est exactement cette discipline.
Oui, la sophrologie, c'est toujours très très difficile à expliquer, en fait. Et du coup, notre seule solution, c'est de faire essayer. Une vraie pratique, il n'y a que ça qui parle vraiment.
Thomas Edurand, vous êtes scientifique de formation, vous avez publié « Quand est-ce qu'on biaise ?»« Comment ne pas se faire manipuler ?» Vous avez peut-être une première question.
Déjà, j'observe qu'on parle de science apparemment, on parle d'efficacité. Donc l'efficacité, ça se prouve,
Donc, est-ce qu'il existe, première question, est-ce qu'il existe dans la littérature scientifique des publications qui montrent l'efficacité de la sophrologie? Moi, j'ai regardé un petit peu, mais vous connaissez mieux que moi.
Alors, moi, je suis président d'un groupe de recherche. Mmh. Hein, c'est, bon, alors le terme paraîtrait peut-être un peu pompeux, mais ça s'appelle groupe d'épistémologie de la sophrologie. Alors, c'est quoi en somme, hein, très très rapidement, l'épistémologie? C'est-à-dire que pour qu'une discipline puisse se constituer comme science, il faut qu'elle passe par un travail critique. C'est tout à fait normal, hein, pourrait-on dire. Et ce travail critique se concentre à la fois sur les fondements, sur les méthodes et sur les résultats. Donc là, nous sommes effectivement au début d'une recherche clinique, hein, et ce groupe s'est aussi rattaché à des chercheurs, puisque nous faisons de la recherche en milieu universitaire, nous faisons de la recherche en milieu hospitalier. Par exemple, à l'Hôtel Dieu actuellement, il y a une évaluation en ce qui concerne précisément l'université de Rennes 2, dans la partie psychologie cognitivo-comportementale, il y a des chercheurs qui évaluent la sophrologie et surtout, hein, ça se peut-être important sans doute pour vous, qui ne sont pas jugés partis. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, il y a eu des études, c'est-à-dire Pascal Amédreau, au CHU de Montpellier, vient de publier donc des premiers résultats concernant justement des enfants asthmatiques, et puis d'autres études aussi qui existent, mais il n'en existe pas assez. C'est pour ça que ce groupe a été constitué, parce que effectivement, quand on aborde, on utilise...
Je n'ai pas cette étude-là, mais...
Oui. Oui.
Les vraies études où on a un groupe contrôle.
On a ça, là. On a
où
tout
on
ça.
Compare avec un placebo. En fait, pour faire une étude, pour voir si ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un groupe à qui on va appliquer la méthode.
Oui, oui, oui.
Et un groupe à côté à qui on va pas appliquer la méthode. Oui. Mais comment on fait un placebo de sophrologie? Il se trouve que dans les études,
oui,
disponibles, il n'y a pas de vrai placebo, il n'y a pas de vrai contrôle.
Oui, il y a ça.
Et il n'y en a qu'une, en fait, oui, où ils l'ont fait. C'est 2018, c'est Almeida 2018. J'ai trouvé, il n'y en a qu'une. Et ils montrent qu'en comparant la sophrologie à une pratique sportive équivalente, eh bien, il n'y a pas de différence. Mais la pratique sportive, en plus, elle permet de retrouver de la motricité que la sophrologie ne le fait pas. Donc, c'est moins efficace que du sport.
On va revenir tout à l'heure sur l'évaluation scientifique de la sophrologie avec vous, Aline Perraudin. Baptiste Beaulieu, juste un mot. Vous avez utilisé la sophrologie pendant vos études de médecine, m'avez-vous dit, hors antenne?
Oui, alors très honnêtement, ça m'a aidé à une période où c'était difficile, les études de médecine évidemment, où on est soumis à énormément de stress. Moi, je l'ai vraiment vécu plus comme une technique de relaxation, de méditation, une manière de verbaliser mes émotions. Mais vraiment, je suis très, très honnêtement, je suis pas vraiment sûr de la plus-value de la sophrologie par rapport à de simples, mais très efficaces, exercices de respiration abdominale par exemple.
Allez, nous attendons toutes vos questions, vos témoignages, vos critiques sur la sophrologie au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Lacour et Alexia Rivière m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bove et c'est réalisé par Claire Destacan.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head
see the world spinning round. See the world spinning round.
Les Beatles interprétaient The Fool on the Hill.
Alors maintenant, on va se réveiller, tout doucement. Maintenant, levez-vous.
Grand bien vous fasse.
Oh, et Thomas Dutour qui dormait.
Sur France Inter.
10h21 et on se demande ce matin ce qu'est la sophrologie. Nous attendons toutes vos questions, vos témoignages, vos critiques sur cette pratique au 01 45 24 7000.
La sophrologie, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, la profession n'est pas reconnue, mais elle entre de plus en plus dans les hôpitaux et les écoles d'infirmières, comme ici, à Sarcelles.
Vos paupières deviennent lourdes, très très lourdes, mais lourdes détentes.
Voilà. Avec cet après-midi-là, un exercice sur le souffle.
Alors là, l'objectif, c'est de leur apporter des outils et des techniques pour arriver à gérer leur stress, à gérer leurs émotions.
Autant d'outils sur la respiration pour aider ensuite les patients.
Arriver à gérer sa respiration et sa douleur par la respiration permet de soulager sans médicaments.
Problème, il est devenu difficile de s'y retrouver dans la nébuleuse de la sophrologie. Il existe plus de 130 écoles. Certaines prétendent former par correspondance, d'autres en 6 mois seulement. Il existe plusieurs fédérations professionnelles. Certains se battent aujourd'hui pour que la profession soit mieux encadrée dans l'intérêt de chacun.
Extrait d'un reportage sur TF1 en novembre 2016. Richard Esposito, je rappelle que vous venez de publier un Que sais-je consacré à la sophrologie. Guillaume Dolpierre, vous êtes également sophrologue. Alors si le métier de sophrologue n'est pas vraiment réglementé, comment les auditeurs peuvent-ils s'y retrouver? Je dois vous avouer que je suis un peu perdu entre tous les courants en sophrologie. Il existe une myriade d'écoles, de fédérations, de chambres syndicales. C'est très difficile de s'y retrouver. Et quand on tape sophrologie sur un moteur de recherche, on trouve tout et n'importe quoi. Des praticiens qui paraissent sérieux, diplômés, appartenant à une fédération professionnelle, et puis des charlatans, enfin ceux qui me paraissent un peu charlatans, et qui semblent appartenir à une secte ésotérique, et qui mélangent un peu tout. Oui. Comment on fait pour s'y retrouver, Gérard Esposito?
Moi, je pense que c'est pas le terme sophrologie en soi qui pose problème, c'est la façon de l'instrumentaliser. Donc ça, c'est déjà une première chose. D'un autre côté, vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux orientations de départ. C'est-à-dire la sophrologie, donc, est ce que le fondateur appelle un entraînement existentiel.
Alfonso Quesedo.
Voilà, une pédagogie de l'existence qui peut avoir des effets thérapeutiques. Donc il n'y a pas une promesse, vous voyez, voilà, en disant ça aura des effets thérapeutiques, c'est aux personnes d'essayer et de voir effectivement comment elles peuvent et si elles peuvent évoluer avec. Comme toutes les méthodes, hein, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, il y a l'autre approche qui consiste à dire la sophrologie nous inscrit directement dans le champ de la thérapie. Et là, si elle nous inscrit effectivement directement dans ce champ, les personnes qui sont sophrologues doivent être obligatoirement des thérapeutes. Nous, nous considérons justement dans la première approche que le sophrologue n'est pas un thérapeute, il accompagne des professionnels de la santé. C'est-à-dire que, par exemple, des médecins, des cancérologues ou autres vont juger que la sophrologie pourrait être intéressante. Et voilà, la personne va s'y retrouver ou pas, hein, c'est surtout ça.
Guillaume Dolpierre, comment se passe la formation d'un sophrologue? On se forme comment à la sophrologie? Est-ce qu'il existe un diplôme d'État, par exemple?
Non, c'est pas un diplôme d'État. Comment on se forme? On essaye de trouver, alors je vais vendre un peu ma paroisse comme on dit, mais on essaye de trouver une bonne formation sérieuse. Et pour moi, en tant que sophrologue, j'ai fait une formation en 2 ans, ce qui permet d'être raisonnable pour avoir le temps d'intégrer toutes les pratiques et les techniques, surtout les ressentir, de façon à travailler aussi sur soi pour être bon après, de façon à rendre les choses à nos différents clients.
Mais comment on la trouve, cette bonne formation, Richard Esposito?
Alors, il y a des organisations, c'est-à-dire que il y a eu des états généraux de la formation en sophrologie qui ont réuni à peu près une quarantaine d'écoles et d'essayer d'aligner les choses. Et ce qui avait été décidé, c'est qu'il fallait des temps précisément d'intégration qui correspondait à l'essence même de la sophrologie, c'est-à-dire on peut pas aller vite. Hein, alors il y a des personnes qui voudraient que ça se fasse par correspondance, comme c'était dit, d'autres en 6 mois. Pour nous, c'est du n'importe quoi, pour une raison simple, c'est que le sophrologue lui-même doit effectivement, comme l'explique Guillaume, travailler sur lui et intégrer précisément les techniques et évaluer sur lui-même comment il réagit, en quelque sorte.
Guillaume Delpierre? Vous voulez peut-être réagir à ce que vient...
Du tout, rien,
d'accord,
non, je suis entièrement d'accord.
Vous regardiez profondément dans les yeux. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les origines de la sophrologie. En 1958, le neuropsychiatre Alfonso Caicedo teste les bénéfices de l'hypnose à la place des électrochocs et des traitements médicamenteux de certaines maladies mentales, mais ça ne suffit pas. Il imagine de nouvelles techniques. Sur quoi il se base, Alfonso Caicedo? Est-ce qu'il s'agit d'un bricolage, d'un syncrétisme, d'une véritable démarche scientifique?
Moi, je dirais que ce qui fait la force précisément de Caicedo, c'est un esprit de synthèse. C'est-à-dire qu'il a compris que justement, il existait donc des techniques en Occident qu'il a essayé, qu'il a expérimenté avec ses patients.
Et l'hypnose, par exemple.
Voilà, l'hypnose, mais aussi le training autogène de Schulz, la relaxation différentielle de Jacobson, enfin différentes techniques. Et il a aussi compris qu'il était dans une forme d'insuffisance. Et on peut dire que, bon, par un concours positif de circonstances, il s'est intéressé à ce qui se passait en Orient, c'est-à-dire au niveau du yoga, du bouddhisme, du zen, enfin, etc. Et c'est ce travail de synthèse qu'il a effectué, c'est-à-dire un travail intelligent de synthèse. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la force de Caicedo.
Influence également d'un courant philosophique, la phénoménologie, un courant qui a influencé la psychiatrie, la psychanalyse ou encore la psychologie. Oui. Comment expliqueriez-vous la phénoménologie à un enfant de 12 ans qui nous écoute peut-être ce matin en vacances? Alors, expliquez-nous simplement ce que c'est.
Je dirais que c'est la dimension théorique, ça, de la sophrologie. Hein, d'accord. Effectivement, si nous faisons de la sophrologie avec un enfant de 12 ans, on ne va pas lui faire un cours de phénoménologie, parce que c'est une partie qui concerne la philosophie. Mais la phénoménologie, de façon très rapide, c'est une méthode aussi, plus qu'un système de pensée figé, pourrait-on dire, qu'un philosophe qui s'appelle Husserl, qui est de formation scientifique aussi, a constitué. Et nous utilisons précisément la phénoménologie. Je voudrais pas rentrer dans
le
détail,
dire vite, mais la phénoménologie nous invite à voir ce qui nous est familier, comme si c'était la première fois.
Voilà, c'est-à-dire que ce que le sophrologue va développer, en quelque sorte, c'est une certaine attitude vis-à-vis de la personne qui pratique, hein, que nous appelons sophronisant. Bon, c'est un terme effectivement particulier, et cette attitude qui consiste précisément à aborder l'autre sans a priori, sans jugement, dans une posture d'accueil, pourrait-on dire, et d'être à l'écoute de sa demande et d'adapter précisément la technique à la demande de la personne. Et c'est ça toute la difficulté de la formation pour nous en sophrologie, c'est-à-dire d'intégrer cela. C'est pas quelque chose qu'on sortirait d'un ordinateur ou d'une armoire qu'on plaquerait précisément sur la personne. C'est en fonction de ce que la personne nous dit que nous adaptons précisément nos différentes techniques.
Et dans la sophrologie, il n'existe pas de dualité corps-esprit?
Non, c'est-à-dire que là, dans la sophrologie, non. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, de la sophrologie, c'est de considérer que l'homme est un tout. Et ce que l'on appelle la conscience n'est pas simplement une faculté qui permet d'intellectualiser, mais c'est ce qui assure précisément l'unité du corps et de l'esprit.
Et vous parlez, dans votre que sais-je, de niveau de conscience.
Oui.
Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans le domaine de la sophrologie, les niveaux de conscience?
Alors, les niveaux de conscience, c'est-à-dire qu'une personne peut être dans ce qu'on appelle un niveau de conscience ordinaire.
La veille.
La veille. Et ce que nous appelons précisément le niveau sophroliminal, selon Caicedo, c'est un niveau qui se situe entre veille et sommeil. C'est-à-dire c'est un niveau particulier où la personne est très réceptive à ses ressentis, elle est très réceptive à ce que le sophrologue peut dire, d'où la nécessité d'une vraie formation, parce que il peut y avoir effectivement un charlatan qui pourrait induire n'importe quoi. Et donc, le sophrologue lui-même, pendant sa formation, doit travailler pour être le moins inducteur possible. Vous voyez, le plus neutre dans son langage.
Thomas Cédurand, je rappelle que vous animez la chaîne YouTube La Tranche en Biais, et que vous co-dirigez l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique.
Oui.
Merci d'en parler. Mais dans les termes, moi, on voit dans Caicedo des mots comme phénoménologie existentielle, vivance moléculaire, cyberconscience chronique, vivance de la phylogénèse, de l'ontogénèse. On ne peut pas dire que ce soit totalement scientifique. Il y a notamment, est-ce que vous connaissez, je pense que vous le connaissez, Thierry Loussouarne.
Oui, Thierry Loussouarne.
Qui est quelqu'un, donc, président de la Fédération française de sophrologie, directeur de l'école de sophrologie de Salon de Provence. Il a écrit au moins 4 livres. Et dans un de ses livres, il dit le but du troisième degré de relaxation dynamique, parce qu'il y a plusieurs degrés de relaxation, on rentre, vous pourrez peut-être en parler, de nous faire prendre conscience de notre dimension spirituelle. À force de pratique et de persévérance, nous percevons que notre être est relié à tous les êtres, ainsi qu'à une puissance spirituelle que certains appellent cosmos.
Oui, mais ça.
Alors, est-ce que c'est un mouvement spirituel ou pas ?
Ça tient, si vous voulez, ça a tiré le soir, non ? Ça ne tient pas. C'est tout le problème que nous avions posé tout à l'heure. Hein.
Oui, mais comment je distingue un bon sophrologue ? Parce que le bon chasseur et le mauvais chasseur, le bon chasseur il tire, et le mauvais il tire, mais le sophrologue, comment je sais ?
Non, moi, je verrai les choses, si vous voulez, déjà en les reprenant à la base. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'évoquais la sophrologie comme une technique corporelle, et je dirais une technique de bon sens. Hein. Alors, ça voudrait dire quoi ? C'est-à-dire que le premier principe de la sophrologie, c'est le principe du schéma corporel comme réalité vécue.
Ça veut dire quoi ?
Alors, on y va. Oui. C'est-à-dire que là, dans cet instant présent, vous êtes assis, vous me parlez, vous réfléchissez pour poser des questions, vous regardez un petit peu tout le monde. Et si je vous dis, ben voilà, votre corps en contact avec la chaise, la position de votre main, comment ? C'est-à-dire, nous revenons au corps, d'une certaine manière. Ça, c'est la première étape. Et c'est, disons, l'étape de base. Et pendant, on va dire, très longtemps, les personnes vont favoriser ou intégrer, pourrait-on dire, cette expérience corporelle, c'est-à-dire une meilleure intégration corporelle. Ça, c'est la première étape. Alors, quand je vous parle, vous êtes présent à moi, et moi, je suis aussi présent à moi par la conscience de ma pensée et de mon corps. Mais le fait d'avoir conscience de vous n'exclut pas le fait d'avoir conscience de moi non plus sur cette chaise, de ma respiration, de son rythme. C'est-à-dire, c'est aussi par là que je vais apprendre à gérer mon énergie, mon débit de parole.
Votre énergie, etc. Qu'est-ce que vous appelez énergie ?
Alors, quand je parle, si vous voulez, d'énergie, on va dire bon, ce qui se mobilise, si vous voulez, dans le sens où la dépense énergétique hein, qu'on pourrait avoir à réfléchir, à rester concentré, vous voyez, enfin bon. Et puis d'un autre côté, donc la méthode, si vous voulez, progresse effectivement. Là, je vois par exemple qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur ce qu'on appelle la liberté intérieure, hein, qui est propre aussi au grand système de la philosophie, c'est-à-dire l'idée, c'est pouvoir apprendre aussi à revenir en quelque sorte vers soi par les techniques et apprendre du recul en quelque sorte par rapport aux situations. Moi, je serais très basique, c'est-à-dire l'aspect spirituel des choses, je vais le retrouver dans l'art, dans la philosophie, pour les croyants dans la religion. La sophrologie est avant tout une méthode corporelle.
Alors,
c'est là-dessus que j'aimerais insister.
J'aimerais qu'on s'intéresse aux applications de la sophrologie dans le domaine médical et paramédical. Quelles sont les principales indications ? Le stress, le sommeil, la gestion de la douleur ?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a quatre orientations. La première orientation, ce serait celle de la santé. Hein, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le sophrologue n'est pas obligatoirement un professionnel de la santé. Il accompagne, hein, ça c'est déjà une chose. Il ne doit pas poser de diagnostic, il n'intervient pas dans les traitements, ça c'est très clair si vous voulez, cela relève de la déontologie. La deuxième orientation, ce serait la prévention. Par exemple, tout ce qui peut relever, admettons, du corps au travail.
Hein,
Les risques psychosociaux, l'épuisement professionnel. Mais en partant du principe, si vous voulez ici, que la sophrologie peut agir à deux niveaux, c'est-à-dire en préventif. Là, le sophrologue peut agir seul, en curatif, mais là, le sophrologue ne peut pas agir seul. Il faut qu'il soit accompagné.
Guillaume Dolpierre, vous avez proposé un projet au CHU de Rouen pour apaiser la douleur. Expliquez-nous un petit peu ce projet.
Eh ben, en fait, c'est mon premier métier, c'est-à-dire que je suis ambulancier au niveau d'un SMUR à Rouen. Et en fait, j'ai amené l'outil sophrologique aux interventions. Tout doucement, tranquillement, une fois que j'ai été formé en sophrologie et diplômé, après en avoir parlé forcément avec les différents intervenants, hein, dans un véhicule SMUR, il y a un médecin qui est quand même le chef d'équipe et un infirmier ou une infirmière. Et du coup, j'ai réussi à amener tout doucement cet outil sophrologique pour la prise en charge du patient Parce que la médication, c'est une chose, mais il faut le temps de la mettre en place, hein, faut perfuser, etc. C'est un certain temps avant que la médication fasse son effet. Et du coup, j'ai trouvé cet espace-temps de début d'intervention pour commencer à apaiser les différentes victimes.
Pouvez-vous nous donner un exemple concret, précis ?
Précis, oui. J'ai eu un accident de la route avec un accident de moto, avec un poli fracturé pour le coup. Et le temps de mettre en place, c'était quand même assez compliqué. C'était dans un champ, enfin, ça se passe jamais dans de bonnes conditions, hein, les accidents. Et du coup, j'ai pu me mettre en contact avec cette personne et tout de suite mettre en place un peu la sophrologie. C'est-à-dire que là, forcément, il n'y avait pas de stimulation corporelle, hein, vous imaginez bien. Mais je suis resté très basique avec la respiration et simplement des évocations positives dans un premier temps, de façon à l'apaiser le plus possible. Et a déjà baissé son stress, qui baisse lui-même le seuil de douleur, parce que le stress a tendance à augmenter la douleur.
Docteur Patrick Gignès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle douleur psychosomatique maladie fonctionnelle au CHU de Montpellier. Est-ce que vous utilisez la sophrologie dans votre service ?
Ah bien, oui, c'est une longue histoire. Bon, elle a évolué, mais elle a commencé il y a 40 ans, cette année, où la première construction de notre centre de la douleur s'est basée sur la douleur, l'algologie et sophrologie. Donc le premier diplôme qu'on avait mis en place, c'était algologie et sophrologie. Pourquoi on avait fait ça ? Parce qu'on s'est aperçu que la médecine technique ne pouvait pas donner toutes les capacités aux patients d'être guéris et soulagés des douleurs chroniques rebelles et résistantes. Donc on avait toujours pensé qu'il fallait une nouvelle action sur les patients qui donnait du pouvoir nouveau que le patient avait en lui, mais qu'il n'avait pas la capacité de développer sans l'aide d'un coaching personnel sur le contrôle de la douleur. Et au début, on a choisi la sophrologie, qui était naissante, mais qui était peut-être moins mal vécue que l'hypnose. Il y a 40 ans, l'hypnose était beaucoup plus mystérieuse et magique, et donc elle n'était pas très facile à entrer dans les hôpitaux. La sophrologie, finalement, on a formé beaucoup d'infirmières dans ce domaine-là, et ça a donné ce complément à la prise en charge des patients difficiles, ce complément qui voulait, en fait, proposer une empathie dans la relation thérapeutique que la technique médicale ne donnait pas. Cette empathie, la sophrologie, au début, nous a donné ce starter, et toutes les infirmières ont été formées, nous avons été formés, et les patients gagnaient en capacité de s'auto-contrôler. C'est ça qui a été l'origine, il y a 40 ans, de cette introduction au CHU de la sophrologie.
Docteur Patrick Gignès, vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Alors l'essentiel, c'est surtout, à l'époque, c'était les lombalgies multi-opérées. On avait eu beaucoup d'actions sur les hernies discales. Maintenant, on a un peu levé le pied sur la chirurgie des hernies discales, mais à l'époque, les hernies discales étaient trop opérées et modifiaient totalement le schéma corporel musculaire des dos, puisqu'après l'opération, le muscle se contractait, se crispait, et les patients étaient rentrés dans un cercle vicieux. Pour sortir, les techniques médicales étaient insuffisantes. Donc on s'est aperçu que les techniques de relaxation corporelle, la médiation corporelle, les techniques de nouvelle programmation de leur schéma corporel arrivaient à cette décontraction que les médicaments ne pouvaient pas obtenir. Et les patients, en quelques séances, permettaient une nouvelle façon de régler automatiquement cette tension musculaire suite aux opérations. Ça, vraiment, ça a été le plus grand succès. Après, on l'a appliqué sur les techniques de zona, les techniques des gens qui avaient les membres fantômes. Mais ce que je dois dire, c'est que la sophrologie n'est pas quelque chose d'atypique. Elle est retrouvée maintenant, l'hypnose maintenant a plus gagné du terrain par rapport à l'implantation dans les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que l'hypnose a pu montrer des preuves scientifiques. Elle a fait des analyses statistiques et des preuves, j'allais dire, avec l'IRM cérébral. Donc on s'est aperçu que maintenant, c'est l'hypnose qui est beaucoup plus facile à introduire dans les hôpitaux que la sophrologie, qui n'est pas reconnue par l'Académie de médecine et qui est un peu, des fois, mélangée avec le coaching des gens, pas pour la santé, mais pour le bien-être en général.
Thomas Cédur,
60 ans d'existence, zéro preuve. C'est peu. Je pense que faire moins, c'était difficile. Donc, quand on se relaxe, quand on réfléchit, etc., on va mieux. Est-ce que ça valide le contenu théorique de la sophrologie ? Ça me paraît compliqué. Est-ce que vous connaissez Raymond Abrozol ?
Oui.
Sans doute, c'est une des grandes références de la sophrologie. Il a écrit notamment avec Alfonso Quesedo, donc il a coécrit avec le fondateur de la doctrine. Et en 2002, il écrit un bouquin, La quête de l'excellence, comment augmenter ses performances. Il est écrit, et je vais parler lentement parce que c'est grave, le cancer serait lié à un trouble dans le niveau de conscience, ce serait la maladie Omicron, c'est un terme sophrologue, de l'anaphronie, c'est aussi un terme de sophrologue. Donc, est-ce que la sophrologie permet d'identifier quelle est l'origine des cancers, comme le prétend M. Abrozol ?
Non,
Richard Esposito.
Non, mais pas du tout. Non, c'est-à-dire que, bon, là, vous me citez effectivement grave, une personne en disant il a écrit ça, il a
évidemment
écrit
que
ça.
Bah, je vous cite des gens.
Non, mais, oui, oui.
Quand on tape sophrologie sur Internet, on n'a que les 130 écoles qui font leur publicité. On a très, très peu d'articles scientifiques. Vous dire, on en a 200. L'essentiel, c'est des témoignages, des études de cas. On en a trois qui passent le crible de ce qui pourrait être dans une méta-analyse.
Non,
je suis désolé.
Non, non, mais je vais. Attendez, parce qu'il faut que j'apporte quand même des éléments.
Richard Esposito.
Mais
laissez répondre, Richard Esposito.
C'est quoi l'anachronie,
Thomas Sedouan?
Oui, alors là, on va rentrer dans des termes, si vous voulez. Juste une chose.
Important.
Juste une chose. D'abord, vous n'êtes pas bien renseigné. Il y a une étude scientifique qui a été publiée à Pontchaillou par le docteur Marc Vérin, qui est spécialiste de la maladie de Parkinson. Donc cette étude qui s'est effectuée sur 4 ans va devenir une étude aussi de grande ampleur, puisque c'est aussi ça le problème de la science. Il ne faut pas simplement une étude, vous voyez, sur 4 ans, il faut faire une étude qui soit aussi beaucoup plus large. Et donc il a montré justement que les personnes qui bénéficiaient de stimulation, si vous voulez, dans le cerveau, la sophrologie pouvait leur apporter avant et après et améliorer leur qualité de vie. Il y a une étude qui a été faite aussi, elle demande à être reprise aussi, c'est le propre de la science, comme vous le savez, comment à l'hôpital Godichaud à Nantes, avec une équipe de médecins, il y a des travaux, il n'y en a pas assez, et je partage tout à fait votre position, il n'y a pas assez de travaux.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, vous êtes penchée sur les quelques études et évaluations scientifiques qui existent sur la sophrologie, ce sont des travaux assez éparpillés, hein.
Oui, quand on recherche le terme sophrologie sur PubMed, c'est la base de données médicales, on voit qu'il existe quelques études qui appuient son utilité. Il faut quand même noter qu'il y a très peu de travaux anglo-saxons. La sophrologie n'est pas pratiquée dans les pays anglo-saxons. Il y a une étude qui a été réalisée à l'Institut Curie, publiée en 2015 dans la revue Soins, qui a montré que la sophrologie semblait bénéfique aux femmes souffrant d'un cancer du sein, traité par chimiothérapie. Elle leur a permis de mieux gérer les troubles liés à la maladie et aux traitements comme l'anxiété et les nausées. Mais attention, cette étude, elle était qu'observationnelle. Donc, il n'y avait pas de groupe contrôle. Il faut donc vraiment rester prudent quant à l'interprétation de ces résultats.
Ça ne prouve rien.
En tout cas, elle corrobore le retour positif des patientes que les soignants ont souvent, et la sophrologie est toujours pratiquée à l'Institut Curie. En oncologie toujours, j'ai retrouvé une autre étude parue en octobre 2018 dans les Annales de médecine palliative qui montre que la sophrologie induit une diminution de l'anxiété, de la douleur chez des patients devant de subir une radiologie interventionnelle. Alors là, il y a un groupe contrôle, mais c'est vraiment une petite étude qui porte sur 42 patients. Ensuite, une autre étude récente a été menée sur des jeunes asthmatiques au CHU de Montpellier. Un groupe a suivi le traitement classique à base de médicaments. L'autre a en plus suivi de la sophrologie. Et là, on constate que dans le groupe bénéficiant de la sophrologie, de meilleurs paramètres respiratoires. Cependant, aucune différence n'a été notée concernant les doses de médicaments et la durée d'hospitalisation. Les chercheurs concluent que la sophrologie représente une thérapie adjuvante prometteuse. Voilà, on voit bien que ce n'est pas une discipline pour l'instant vraiment scientifique, ni un traitement en soi, mais que ça semble pouvoir être un soutien quand on doit affronter la maladie.
Et en ce moment, une évaluation de la sophrologie sur le sommeil est en cours avec le professeur Damien Léger à l'Hôtel Dieu. Vous confirmez, Richard Esposito?
Oui, avec le GES.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre médecin écrivain Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, et vous savez, à grand bien vous fasse, on aime donner la parole aux auditeurs. Et je voulais partager un témoignage positif d'auditrice, parce qu'il est très représentatif des courriers que je reçois. Depuis de nombreuses années, cette auditrice souffre d'endométriose. Vous savez, c'est cette maladie dont on parle un peu plus, mais qui passe encore malheureusement trop sous nos radars diagnostiques. Pour simplifier, de petits bouts de la muqueuse qui tapissent l'utérus colonisent l'abdomen, l'appareil urinaire et provoquent d'horribles douleurs. Cette patiente me parle de son parcours. Médecin généraliste, gynécologue, spécialiste, elle en a vu tellement qu'elle en a perdu le compte. Elle en a vu qui lui ont lancé, sans même un regard, « C'est rien madame, un space-fond et hop, ça va passer ». Elle en a vu des brutaux qui ont fouillé en elle sans voir ses larmes. Dès qu'ils lui ont balancé « C'est dans votre tête madame ». L'endométriose, c'est souvent, d'abord, une histoire d'errance médicale avant d'avoir enfin un diagnostic. Une fois celui-ci posé, cette auditrice me parle des multiples opérations, puis les traitements hormonaux et finalement, l'hystérectomie, le deuil impossible de la maternité, son ventre qui est à la fois vide et rempli de douleurs. Eh bien, vous savez ce que cette patiente regrette le plus ? C'est d'éprouver la sensation que les spécialistes ne lui parlent que de ses organes, mais jamais d'elle. Jusqu'à ce jour où une médecin lui annonce que l'endométriose a touché les reins, le côlon, il faut tarir à la source de la maladie, c'est-à-dire s'attaquer aux ovaires. La doctoresse lui explique doucement en lui disant qu'elle comprend qu'elle ne soit pas prête, qu'elle attendra qu'elle le soit. D'ailleurs, la première fois qu'elle a rencontré, la médecin a posé la question « Acceptez-vous que je vous examine ?» C'était la première fois qu'un médecin lui demandait si elle consentait à un examen gynécologique. La première fois. « J'ai eu le sentiment d'être enfin regardée », me dit la patiente. La doctoresse n'a pas exigé que la patiente s'allonge nue avec les pieds dans les étriers. Elle a demandé l'autorisation de l'examiner en gardant la robe à peine relevée. Ce regard et cette question ont tout changé pour la patiente. La médecin l'a accompagnée de longs mois jusqu'au moment où elle s'est sentie enfin prête. Puis au bloc, la médecin a pris sa main un instant et c'est à cet instant-là que la patiente a cessé de trembler. J'ai la sensation, me confie-t-elle, d'avoir enfin rencontré un soignant. Je sais que c'est cette simple question qui m'a rendu ma dignité et m'a rendu actrice de mon histoire. L'endométriose est toujours là, mais maintenant j'arrive à l'apprivoiser.
Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. Vos chroniques sont à voir en vidéo sur la page Facebook de France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors Colette, sur notre page Facebook, nous dit « Je trouve très intéressant ce que j'observe en ce moment dans votre émission, l'impressionnante difficulté des sophrologues présents à définir la sophrologie et l'incapacité des sophrologues interpellés à donner un exemple concret de la sophrologie dans son application concrète sur une situation donnée, ce qui expliquerait, entre autres, la pléthore d'écoles diverses et variées, sans parler de la multiplicité des pratiquants. » Alors soyons concrets. Comment se passe une séance de sophrologie? Je viens vous voir parce que je suis un peu stressé. Ça ressemble à quoi une séance de sophrologie? À une séance d'hypnose, de méditation de pleine conscience? Quelles sont les techniques qui sont utilisées? Tiens, Guillaume Delpierre.
Alors, dans
concrètement,
un...
je viens vous voir pour ça.
Concrètement, le déroulement d'une séance, c'est une première phase d'écoute. Une phase d'écoute où la personne va expliquer les raisons pour lesquelles elle vient. Et de ce fait, on va partir après préparer et présenter des pratiques même. Et le but du sophrologue, c'est de rendre la personne autonome, c'est-à-dire lui donner les bons outils, de façon à qu'elle puisse s'en servir, elle, dans son quotidien.
Et quels sont ces outils, tiens, justement?
Alors, ça va être des outils de stimulation corporelle. Alors ça, c'est on a différentes stimulations. Alors, forcément, la radio, c'est difficile de les démontrer.
Stimulation corporelle, parce que j'ai cru, en lisant le livre « Le que sais-je » de Richard Esposito, qu'on ne touchait pas en sophrologie, qu'on ne touchait pas le corps de
du patient,
du client.
Tout à fait. Il n'y a aucun contact. C'est vraiment le client lui-même qui fait les stimulations. On les montre
par exemple,
et on les fait faire.
Bah,
ça va être, par exemple, un mouvement d'épaule de haut en bas, de façon énergique. J'arrive à le dire sans le faire. C'est pas mal.
Des techniques de...
C'est une technique de relaxation.
C'est, alors, ça va être de contraction et de relâchement musculaire. Le but, ça va être ça. Contracter, relâcher les muscles de façon à leur proposer de s'allonger encore plus et de se détendre.
Quels sont les autres outils? La respiration?
La respiration, bien sûr. Donc là, différentes techniques de respiration, des respirations alors, thoraciques, abdominales, différents rythmes de respiration que l'on va mettre en place. Et également des évocations positives, comme on a dit tout à l'heure.
Par exemple?
Par exemple, ça peut être simplement évoquer un mot qui propose le calme.
Mmh. Richard Esposito, quelques exemples concrets de ce qu'est la sophrologie, si on vient vous voir.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous procédons en plusieurs temps, le temps d'anamnèse, c'est-à-dire c'est un temps d'écoute de la personne, essayer de comprendre ce qu'il a conduit, si vous voulez, vers nous. Ce sont souvent des médecins qui nous envoient des personnes, et chacun est dans son rôle, bien entendu. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de confusion. Le médecin, c'est le professionnel de la santé, le sophrologue étant celui qui accompagne le professionnel. C'est tout. Et qui n'intervient pas, comme je disais tout à l'heure, dans les traitements. Ou dans la... Après, dans un deuxième temps, nous, à l'écoute de la personne, suivant sa demande, nous allons adapter la technique. Et cette technique, en fonction des différentes prises de conscience que la personne peut effectuer, parce que c'est aussi ce que la sophrologie peut produire, nous allons réadapter en permanence, si vous voulez, les techniques elles-mêmes.
Combien de temps dure une séance?
Entre 45 minutes et une heure.
Et combien de séances il faut pour obtenir un résultat
Il n'y a pas tant que ça, c'est-à-dire 10, 20 séances, 5 ans, mais ça dépend. C'est-à-dire que d'abord, ça dépend ce que la personne vient chercher, ça dépend ce qu'elle va aussi découvrir par les techniques qu'on va lui proposer. On ne peut pas dire, voilà, pour arriver à mieux dormir, alors que la personne n'arrive pas à dormir depuis 40 ans, en 10 séances, on va régler le problème. Là, c'est présenter les choses de façon très magique. Et c'est souvent comme ça aussi que la sophrologie est instrumentalisée.
Instrumentalisée, peut-être par certains sophrologues qui mélangent plein de choses, parfois un peu ésotériques, le magnétisme, si un sophrologue vous touche, s'il y a du massage...
C'est totalement opposé à la
déontologie.
Mais complètement opposé, c'est-à-dire ce serait une forme d'ingérence, vous voyez...
Il y a bien le terme conscience énergétique
dans
la doctrine.
Oui.
C'est quoi la conscience énergétique?
Alors, Caicedo, là on va rentrer dans des aspects très théoriques.
Il y a plein de thérapies qui ont un corpus théorique qui n'est pas validé, mais que, comme l'ostéopathie, la chiropraxie, et je pense qu'on peut pas, c'est pas des termes scientifiques, il y a des niveaux d'énergie que maintenant la science n'a pas prouvé.
Claudie, vous êtes à Nantes, vous pratiquez la sophrologie, c'est ça? Vous finissez une formation même en sophrologie?
Voilà, moi je suis une infirmière qui travaille dans un bloc opératoire depuis plus de 20 ans. Mmh. Et puis il y a plusieurs années de ça, j'ai fait de la sophrologie pour moi, pour un problème personnel. Et elle m'a permis de prendre un recul, de me mettre tellement en phase avec ce que je suis moi, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus rentrer les gens. Non, on pose nos propres limites grâce à la sophrologie. Et ça m'a permis de gérer énormément de pression et énormément de situations compliquées dans mon travail. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans. Il se trouve que je me trouve dans le statut de la patiente aujourd'hui. J'ai un cancer du sein. Et je me dis, cette maladie, elle ne doit pas m'arriver pour rien. Donc, en toute conscience, comme par un bon sophrologue, je prends mes décisions. Et ma décision, elle est que la santé, aujourd'hui, les soignants sont plus bien dans ce qu'ils font. Non pas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Je suis une passionnée de ce que je fais, mais je ne peux plus le faire comme on me demande de le faire. Donc je trouve que la sophrologie m'a permis de bien me connaître et d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Et un soignant, c'est avant tout ça.
Merci beaucoup,
Claudie. Je vais faire une mixité de mon statut en sachant de manière absolument consciente là où vont être mes limites. Mais la sophrologie, elle a une chose extraordinaire, c'est-à-dire que pour moi au début, ça a presque été une limite et puis après, ça a été un champ d'action fabuleux. C'est que la sophrologie, elle ne vous expliquera pas le pourquoi vous n'allez pas bien, elle va vous donner des outils pour comment aller mieux.
Merci beaucoup, voilà. Claudie. Merci, Claudie, pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé. Merci à tous. Merci, Richard Esposito. On peut lire votre Que sais-je, la sophrologie, publié au PUF. Thomas Séduran, on peut lire Quand est-ce qu'on biaise, comment ne pas se faire manipuler. C'est chez Humaine Science. Et merci, Guillaume Dolpierre, d'être revenu, ainsi qu'Aline Perraudin de Santé Magazine. Dans un instant, Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oust-chika. Oust-chika. La vérité nue. La vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Oh, le ciel a changé, il a changé, enfin de place.
Bertrand Belin, interprété Nuit Bleue. Vous me disiez, Thierry Lhermitte, ça vous plaisait beaucoup.
Oui, 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 j'aime bien. Mais bon.
Thierry Lhermitte, vous êtes ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. On vous retrouve avec plaisir tous les mois dans Grand Bien Vous Fasse. Vous rendez visite à des chercheurs et vous nous racontez leurs recherches. La semaine dernière, vous êtes allé voir le professeur Lionel Nakache, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière. Lionel Nakache, spécialiste en neurosciences cognitives.
Voilà, alors, Lionel Nakache explore depuis des années les mécanismes cérébraux de la conscience, ce qui rejoint un petit peu ce dont on vient de parler. Son objectif est non seulement de réussir à comprendre les bases cérébrales de la conscience, mais aussi de définir le niveau de conscience des patients qui ne communiquent pas, ceux qui sont dans le coma ou en état végétatif par exemple, pour orienter leur prise en charge.
Alors j'ai oublié de préciser que l'équipe de Lionel Nakache a été soutenue à deux reprises par la Fondation pour la Recherche Médicale en 2010 et 2015. Alors Lionel Nakache est spécialiste en neurosciences cognitives. Qu'est-ce que c'est exactement, Thierry Lhermitte?
Les neurosciences, c'est la discipline qui étudie le système nerveux. Et les neurosciences cognitives, c'est la branche des neurosciences axée sur la psychologie cognitive. Elle étudie les liens entre l'activité du cerveau et la pensée, les émotions, le langage, la mémoire, toutes les facultés intellectuelles. Et dans ce cadre, Lionel Nakache cherche à comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est conscient.
Et qu'est-ce qu'on appelle la conscience?
Ah, il y a
vaste sujet.
Ah, oui, oui, il y a plein de définitions de la conscience. Alors, une définition possible, qui est celle de Lionel Nakache, c'est la suivante. Être conscient, c'est la capacité à se rapporter subjectivement nos états mentaux. Par exemple, je vous montre mes lunettes. L'information arrive à votre cerveau.
Normalement.
Voilà votre rétine, puis votre cerveau. Et là, je ne peux pas continuer parce que je n'ai plus mes lunettes. Donc, je les remets. Et à ce moment-là, vous êtes capable de vous dire, en employant la première personne, je vois une paire de lunettes. Être conscient, c'est être capable de se rapporter à soi, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. C'est savoir qu'on sait.
Et est-ce qu'il existe une zone de la conscience dans le cerveau?
Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Alors, Lionel Nakache et un de ses collaborateurs, Stanislas Dehaene, qui est chercheur à Neurospin à Saclay, suggèrent qu'il y aurait deux espaces dans le cerveau. Ça, c'est leur conception, hein, celle qui mérite, qui sera peut-être prouvée, mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Donc, deux espaces. Un espace périphérique qui est très vaste, en contact avec l'extérieur, constitué de modules qui vont gérer une multitude d'informations provenant de nos sens, en parallèle, sans se parler, de manière inconsciente. Et puis, un espace central, appelé espace de travail global, qui est relié à l'espace périphérique. Et dans ce circuit central, tout serait hyper connecté. Ce qui fait qu'il ne peut traiter qu'une chose à la fois. Et on ne sait ni pourquoi ni comment une information passe de l'espace périphérique à l'espace central. Cet espace central, il n'est pas situé dans une région localisée du cerveau, mais il est diffus et il met en relation de nombreuses régions distantes. Et alors les malades inconscients ont un espace central qui ne marche pas. Mais l'espace périphérique, en revanche, peut souvent continuer à traiter des informations qui proviennent de l'extérieur.
Alors Thierry, tout cela peut paraître abstrait. Concrètement, comment travaille Lionel Nakache et ses collaborateurs et quelles sont les avancées?
Alors, il est chercheur, mais tous les mercredis, Lionel Nakache et ses collaborateurs examinent longuement un patient dans un état non communicant et mettent au point des tests pour définir son état de conscience. Il faut savoir qu'en France, il y a 3000 patients qui sont dans un état non communicant. Alors il est primordial pour orienter leur prise en charge de savoir s'ils sont conscients ou pas. Et jusqu'ici, c'était impossible. Alors aujourd'hui, en envoyant un son à un patient et en réalisant un électroencéphalogramme, on peut savoir si l'information sonore entre dans l'espace central, l'espace de la conscience, après avoir été traitée dans l'espace périphérique, l'espace de l'inconscience. Donc l'électroencéphalogramme, le EEG, permet d'enregistrer ce qui se passe au millième de seconde près dans le cerveau. S'il y a une prise de conscience, elle est subite et elle dure 3 dixièmes de seconde, après 2 dixièmes de seconde d'acquisition du signal. Et l'examen mesure une centaine de marqueurs qui, après analyse informatique, permet de détecter des signes de conscience ou pas. Et un autre examen, l'IRM, est souvent employé en complément. Il permet de voir le cerveau globalement, son anatomie, les connexions neuronales. Et la méthode marche. Il y a un an et demi, il y a un jeune homme de 25 ans qui s'est retrouvé en réanimation à la suite d'une chute lors d'une soirée arrosée sur les toits de Paris. Après 3 semaines de coma, les médecins ont appelé Lionel Nakache pour évaluer l'état de conscience du patient. Car la question de savoir si on limitait les soins ou pas se posait. Et l'examen basé sur l'électroencéphalogramme a montré des signes de conscience. Et heureusement que les soins n'ont pas été arrêtés ou limités, car aujourd'hui il est pleinement conscient. Il marche, il parle et il est plutôt autonome. Mais la connaissance de l'état de conscience est encore parcellaire. On sait définir de manière positive s'il y a conscience, mais pour l'instant, c'est impossible de dire avec certitude qu'il n'y en a pas. Comme on dit, l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Comment on fait pour aider la FRM ?
Eh bien, on fait un don sur frm.org où on envoie un petit SMS avec don au 92 300 et ça prélèvera 10 € sur votre facture de téléphone.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte.